Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Sauvez vite! Venez par suite-moi ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans La Case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va projeter directement dans votre cerveau, dans votre cerveau par l'intermédiaire de vos oreilles, les plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga. Seb au micro, je suis avec vous pendant une heure, mais je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien?
Salut Seb, bonsoir à tous. Bah ça va bien.
Eh bah cool. Tu étais comme moi en train de te promener à la Foire Saint-Martin, très loin de la BD ce week-end, mais...
Ouais, bah ça fait du bien, en famille, c'est toujours cool.
Plus, il faisait pas trop froid, c'était
non,
plutôt
ça va.
Bien.
C'était plutôt top.
Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez discuter avec nous, à parler directement sur le chat, je rappelle, radio-g... www.radio-g.fr, vous avez le chat, on est là, on répond à vos questions, on vous fait coucou, on passe vos messages à l'antenne si vous souhaitez, même si ce n'est pas le but de l'émission, c'est surtout parler de bande dessinée. Ce soir, je vais commencer avec une BD qu'on a repoussée plein de fois par manque de temps, avec Les Envahisseurs de Marc Dubuisson aux éditions Patakès, enfin dans la collection Patakès des éditions Delcourt. Alors, Les Envahisseurs, c'est un mauvalise, si je ne me trompe pas, ma femme me tapera dessus si je raconte des bêtises, qui est envahisseur et chieur pour les gens qui sont chiants. De quoi ça parle? Eh ben, un envahisseur, des envahisseurs sont venus nous rencontrer. Ils sont venus voir nos leaders politiques. Quand je dis les envahisseurs, ce sont bien entendu des extraterrestres qui sont venus d'une planète très lointaine. Mais pourquoi sont-ils venus nous voir? Eh bien d'abord parce que leur planète n'existe plus. Ce sont donc des migrants, vous allez me dire. Mais pourquoi les migrants viennent nous voir? Ben, ils viennent nous prévenir que ce que eux ont fait sur leur planète, à savoir la détruire en surexploitant, toutes les ressources, en l'appauvrissant, en la polluant, c'est la raison pour laquelle ils sont devenus des migrants stellaires, en fait. Donc ils sont venus nous voir, et puis ils se sont dit, on va être sympa, on va leur expliquer les bêtises qu'on a fait, et puis les humains, ils vont comprendre qu'il ne faut pas faire pareil, et puis on va sauver leur planète. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par essayer de leur donner des cours pour les aider à s'intégrer dans notre société. On a renommé leur planète pour la prononcer un petit peu comme nous, on voudrait la prononcer, pour que ce soit plus facile. On les a séparés. On a fait tout ce qu'on sait faire pour ne pas écouter des gens qui nous alertent sur quelque chose d'important, en détournant l'attention. Bien sûr, tout ça avec beaucoup d'humour, parce que si vous connaissez Marc Dubuisson, vous savez que c'est quelqu'un qui a un humour alors à la fois potache, parce que c'est souvent très cash, et j'allais dire pipi caca, c'est pas du tout le cas. C'est un humour qui est... c'est de la grosse déconnade, mais en même temps, il y a toujours ce petit sous-texte un petit peu acide, un petit peu critique de notre société, qui montre que il y a peut-être des choses plus importantes que simplement se préoccuper de notre nombril. Alors ma femme me signale pas sur le chat que ce n'est pas un mauvalise envahisseur, c'est un calembour. C'est pas pareil. Merci Bernard Pivot. Je te ferai un bisou ce soir en rentrant. Donc c'est hyper intéressant les envahisseurs pour une raison assez simple, c'est que ça nous met face à nos propres contradictions. Y a des trucs, ben, on veut pas les faire parce que ça nuit un petit peu à notre propre confort. Alors que ce serait très bien quand même pour sauver la planète. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a ces extraterrestres qui viennent nous expliquer pourquoi ce serait mieux pour la planète, et nous, on les envoie péter parce que ça nous convient pas, en fait, simplement par confort, ou parce qu'on est peut-être un petit peu trop désolé pour les gros mots, des abrutis. Enfin, voilà, quoi. Je vois pas quoi.
C'est très d'actualité, finalement, hein. On reste.
On est complètement dans l'actualité. Et, c'est très corrosif, en fait, de se rendre compte que, on a ces extraterrestres qui nous donnent, en fait, à voir notre propre absurdité, parce qu'ils l'ont vécu. Ils viennent peut-être aussi avec un ton un peu moralisateur, ce qui est dommage. Mais ça n'empêche qu'ils ont raison. Ils ont détruit leur planète en faisant des âneries. Ils viennent nous dire, refaites pas la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autruche et on fait les andouilles parce que...
On veut rester dans notre confort.
Ouais. Dans notre confort ou simplement avec nos idées complètement absurdes de qu'est-ce qu'on peut gagner comme argent si on fait si on sauve pas la planète, quoi. Alors, il y a pas que ça, il y a aussi d'autres vannes hein, dedans parce que ça parle aussi de changement de sexe, ça parle de plein de sujets d'actualité, tout ça avec un humour et un décalage quand même que Marc Dubuisson, il arrive toujours à mettre toujours cette petite pointe d'acidité où ça nous fait rire en même temps dans notre tête, on se dit il a raison. Et c'est je trouve ça super cool. Alors on parle donc c'est une BD à sketch mais avec un sujet ou une histoire qui vraiment va se dérouler au long cours. Comme souvent des BD à sketch, on a un dessin qui est plutôt léger. On n'a pas un truc hyper détaillé, c'est pas...
Oui, ça reste en effet très simpliste, entre guillemets, au niveau des traits.
Ouais, c'est ce que j'ai toujours expliqué. C'est qu'on a l'impression que c'est des dessins qui sont super simples, super faciles à faire. Mais en fait, il y a une constante dedans. Et je pourrais pas faire ça, en fait, de manière régulière. Et c'est ça qui est cool, c'est que le dessin est suffisamment caricatural et drôle pour qu'on se marre avec le dessin, qu'on se marre avec les textes. Et que y a ce fond en fait qui nous fasse réfléchir quand même pas mal. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi de
ça a l'air sympa. Surtout moi c'est vrai le côté humour mais avec un fond derrière en effet qui fait réfléchir. J'aime bien ce côté-là en général avec un peu de décalage par rapport pour se regarder un peu dans un miroir avec j'imagine ces envahisseurs qui arrivent là pour se faire ce penchant là. On a le côté moralisateur mais bon. On a quand même le côté où il faudrait peut-être aussi un peu se bouger. Mais du coup, non, ça a l'air très intéressant.
C'est vrai qu'en fait, l'écologie et tous ces thèmes d'actualité, on peut le faire de manière très docte, on peut mettre de l'humour. Le but, c'est d'en parler surtout.
Oui, complètement. Parce que après, de donner des leçons à tout le monde, c'est pas forcément la bonne chose et c'est pas ce qui marche surtout pour nous, je pense. Français, on n'aime pas trop ça en général, de manière globale. Donc l'aborder avec humour en essayant de montrer un petit peu ce qui peut clocher, ça peut être pas mal.
Eh ben, c'est exactement ce que fait Marc Dubuisson dans Les Envahisseurs aux éditions Patakès. Alors, il est sorti il y a un petit moment déjà maintenant. Je vais vous redire si je retombe sur la bonne date. Il est sorti le 11 septembre. Donc, voilà. Mais c'est toujours d'actualité. Voilà. Puis, n'hésitez pas, si vous voulez vous marrer, cherchez ce qu'a fait Marc Dubuisson. Moi, je me suis beaucoup marré avec certains de ses albums et il a fait un album alors, avec Si qui s'appelle, je ne sais plus, mais qui est une grande aventure, qui est très très bien, dont on avait parlé dans Les Ondes, mais on y reviendra certainement une autre fois. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de partir faire une petite balade musicale et puis d'enchaîner juste après avec l'interview de Laurent Hopman et Renaud Roche, qui sont les auteurs de Les Guerres de Lucas, un album qui a multicartonné et qui parle, en fait, c'est une biographie de George Lucas et des difficultés à créer les Star Wars tels qu'on les connaît. Donc, j'ai eu l'occasion de les rencontrer lors de Cultissime, il y a quelques semaines déjà, plusieurs semaines déjà, Et du coup, voilà, on va pouvoir écouter l'interview que j'ai pu réaliser à cette occasion.
Est-ce que c'est la BD que tu avais déjà ramenée ici, saison dernière qu'on avait regardée et que tu avais présentée ?
Ok. On en avait déjà parlé, ouais. On avait dit beaucoup de bien en fait de cet album, mais comme tout le monde, hein, je sais pas qui a pu dire du mal de cet album. Et ça a été l'occasion de prolonger justement avec les auteurs notre ressenti, puis voir un petit peu comment ils ont pu créer cet album, puis surtout se poser la question de comment on fait une biographie sur un film considéré culte par tout le monde. En attendant, on va s'écouter Gunship avec Doom Dance sur le 101.5 de Radio G, et tout de suite après, on aura l'interview.
FM.
Pas du tout direct de Cultissime. Je suis en compagnie de Laurent Hoffmann et Renaud Roche pour parler de Les Guerres de Lucas aux éditions Demain.
Bonjour.
Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet. Une première question pour vous, l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est une œuvre culte ?
Une œuvre culte, c'est peut-être une œuvre qui... auquel le lecteur est attaché peut-être au-delà du moment où il la découvre. Peut-être que c'est une œuvre qui va nous suivre tout au long d'une vie, qu'on va conseiller autour de soi, qui va juste dépasser le cadre peut-être de la consommation traditionnelle d'une œuvre. C'est une œuvre qu'on va avoir envie aussi de revoir, de relire. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses, peut-être pour moi, une œuvre culte.
Moi, je dirais que... c'est vraiment une œuvre intemporelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une œuvre qui va pas s'inscrire nécessairement dans son époque, qui au contraire va transcender les époques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples d'œuvres désormais cultes qui n'étaient pas vraiment des succès à leur sortie. Je pense tout de suite à Blade Runner, par exemple, au cinéma. Et cet exemple-là s'est reproduit assez souvent, où finalement, c'est avec les années, ça prend de l'épaisseur, on comprend plus les intentions des auteurs, et on se rend compte que justement, c'est toujours aussi pertinent 10, 20, 30, 50 ans après. Et je pense que c'est vraiment ça qui permet de juger, en fait, si une œuvre est culte ou non.
Les guerres de Lucas, ça parle des œuvres de George Lucas, plus particulièrement de Star Wars. Est-ce que pour vous, l'un et l'autre, c'était déjà des œuvres cultes avant de vous plonger dedans?
Bah, moi, j'ai pu voir le premier Star Wars au cinéma à l'époque, donc évidemment, c'était pas encore culte. Mais l'engouement était tel que très rapidement, le public s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce film. Et on pouvait mesurer ça à l'anticipation qu'il y avait à l'approche des prochains films de la série. Donc, c'était en train de devenir un phénomène culte. Donc, voilà, j'ai découvert sa dimension culte au fil du temps.
Moi, pour le coup, j'ai découvert un peu plus tard. J'ai la chance d'être un petit peu plus jeune que Laurent. Et en plus, c'est vrai que, contrairement à beaucoup, c'était pas vraiment pendant mon enfance que j'ai plongé dedans. C'était plus fin d'adolescence. Et donc du coup, je dirais, oui, fin des années 90, quelque chose comme ça. La sortie de l'édition spéciale, notamment, a été un marqueur. Et puis les préquels. Donc déjà, c'est vrai que la saga avait une aura culte. Et phénomène de société déjà bien, bien ancré. Donc c'est vrai que je savais un peu où j'allais, mais bon, j'ai été vite convaincu.
Et est-ce que vous vous considérez comme fan de Star Wars ou des autres œuvres de Lucas?
Moi, perso, je déteste... Pardon, vas-y. Non. Non, parce que... Oui, énormément.
Oui, oui, bien sûr, oui, je me considère quand même comme fan, oui, bien sûr.
Et en étant fan, comment on se dit, tiens, on va aujourd'hui faire un documentaire sur la création de Star Wars, sur comment Lucas s'est dit, tiens, je vais faire des films?
Ce qui est intéressant, c'est que Star Wars, tout le monde connaît, tout le monde a un avis dessus, et tout le monde en a profité en quelque sorte, mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, ce film maintenant est sorti il y a quand même un certain temps. Ça, c'était 77, et les gens connaissent pas ou ont oublié les détails de la création de ce truc. C'est paradoxal, mais c'est un monument de la culture, pas juste de la pop culture, un monument de la culture et du cinéma. Et on connaît pas bien la manière dont ça s'est fait. Donc, c'était intéressant pour nous de raconter ça, d'expliquer. Ce que les gens ignorent ou ont oublié, à quel point ça a été difficile à faire ce film, à quel point ça a bouleversé un ordre établi dans la manière de faire des films, et voilà, on savait que c'était une histoire incroyable, une histoire humaine incroyable, notamment parce qu'on suit les mésaventures de George Lucas, et donc c'était cette histoire qu'on avait envie de raconter, cette histoire que les gens ne connaissent pas.
Et est-ce que c'est compliqué justement de se dire que sur des œuvres, enfin un cinéaste comme lui, on a l'impression que tout a déjà été dit? Et est-ce que justement c'est compliqué de trouver une approche un peu plus originale ou des choses qu'on ne sait pas ou qui sont presque oubliées?
Bah, comme Star Wars est devenu une si grosse machine, y a aussi une légende qui a été associée à cette histoire, qui a été racontée par Lucas lui-même, par les attachés de presse. On a lissé toute l'histoire et on en a fait une sorte de légende, presque un mythe. Et donc, on a perdu beaucoup de détails, beaucoup d'aspérité avec le temps. Et ce qui était intéressant, en revenant aux sources, en réécoutant les témoignages d'époque, en déterrant des archives oubliées, d'avoir la voix des gens à l'époque, comment ils ont fait le film, qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et on arrive à quelque chose de très pur et de très humain, de très intéressant, qui a disparu avec le temps, avec toutes les réécritures.
Et puis, au-delà du fond, il y a aussi le choix de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu effectivement déjà des documentaires. Mais c'est vrai que le fait de le faire sous forme de BD, de bande dessinée, avec tout ce que ça apporte de visuellement, et puis aussi le fait de s'attacher au parcours humain de toutes ces figures, de tous ces acteurs au sens large du film, ça permet au lecteur vraiment d'être dans une empathie, de connecter avec cette histoire beaucoup plus que que à travers le prisme d'un documentaire, donc un peu plus formel, où vous allez voir des interviews de gens assis sur une chaise qui vont vous relater des anecdotes. Là, on est avec eux, on vit avec eux tout ce qui se passe, on stresse avec eux. Je crois que beaucoup de gens, en lisant l'histoire de Georges, se sont rendus compte à quel point il avait souffert et ont souffert avec lui, au point même, ce qui est assez amusant, et de se demander s'il allait réussir à sortir ce fameux film et si ça allait fonctionner, ce qui est quand même une suspension d'incrédulité qui est quand même drôle. Et bon, voilà, donc c'était aussi l'occasion d'aborder ça sous un angle différent au niveau créatif.
Et justement, est-ce que c'est compliqué de transposer visuellement un univers qui est déjà très très fort, très travaillé? Comment on imagine la transposition en documentaire de ces images que tout le monde a dans les yeux?
En plus, c'est vrai que l'enjeu, c'était justement plutôt de montrer les coulisses, hein, donc le making-of. Donc, j'ai pas eu de temps à m'attaquer, on va dire, à l'univers en lui-même, à l'exception quand même notable de ces pages qui relatent les premières versions du scénario. Et là, c'était vraiment un exercice intéressant parce que il fallait faire du Star Wars, mais du prototype Star Wars, parce que c'était censé être le Star Wars qu'il s'imaginait lui-même dans sa tête, avant même qu'il ait embauché les artistes qui vont ensuite faire le développement visuel de tout ça, de l'univers. Donc bien sûr, j'ai pu m'inspirer de ce qui existait, de ce que c'est devenu. J'ai pu m'inspirer des premiers designs, notamment de Ralph McQuarrie, qui ont une certaine esthétique, une certaine âme. Et puis j'ai mis aussi un peu de moi dedans pour créer une espèce de mix de tout ça, pour que ça respire le Star Wars sans en être déjà vraiment. Et donc ça, c'était intéressant. Et après, c'est vrai que pour le reste, l'essentiel du roman graphique quand même traite vraiment d'un tournage de film et de tous les aspects d'une production. Et voilà.
Et pourquoi ce choix, justement, au niveau graphique, d'avoir presque que du gris et juste quelques petites pointes de couleur?
Il y a plein de raisons qui sont après aussi purement, je dirais, pratiques, qui sont moins intéressantes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait de le faire comme ça, ça avait comment dire, il y avait une démarche narrative derrière, parce qu'en fait ça permet d'ajouter une strate supplémentaire sur le plan narratif, car grâce à cette technique on peut donc isoler un élément ou une case ou même une page. Par exemple, il y a forcément, dès que c'est des pages qui vont traiter de l'imaginaire, donc soit quand on est dans son esprit, quand il imagine la saga ou des choses comme ça, ou c'est souvent des pages qui sont full color, donc complètement en couleur. Et puis des fois, il peut y avoir des éléments qui sont liés au film. Du coup, par exemple, Chewbacca, il est tout le temps en couleur, si on le voit dans la BD, parce que c'est vraiment comme si c'était un élément de fiction qui était dans un cadre réel, en l'occurrence là, dans le cadre d'un tournage. Des choses comme ça. Mais donc c'est intéressant parce que ça permet d'orienter le regard du lecteur vers des choses précises. Et du coup, ça enrichit la narration, alors que... Et de façon très efficace, je dirais, alors que c'est vrai que si c'était tout en noir et blanc, tout en couleur, il y a des procédés pour le faire, mais c'est moins clair en général.
Et comment vous avez travaillé ensemble? Il y avait une grosse direction, ou plutôt c'est un jeu de ping-pong qui s'est fait entre les deux?
Oui, c'est ça, c'est vraiment un travail collaboratif, hein. Renaud a interprété le scénario, a apporté sa vision, a imaginer la mise en scène, hein. C'est vraiment comme un film, une bande dessinée en quelque sorte, mais l'équipe est constituée de deux personnes seulement. Ça coûte moins cher, voilà.
Et le travail sur la partie graphique, c'est numérique?
Oui, j'ai tout travaillé sur tablette graphique. Ça reste du dessin, contrairement à ce que parfois les gens peuvent penser. C'est juste qu'au lieu de dessiner sur un support papier, on dessine sur un écran tactile en quelque sorte, voilà, avec un stylet. Tout simplement parce que moi je viens aussi du monde du cinéma et du storyboard notamment. J'ai beaucoup bossé là-dedans et dans ce type de production maintenant on bosse tous en numérique, tout simplement parce qu'on a besoin d'être efficace, on a besoin de beaucoup corriger, refaire, amender les dessins qu'on peut produire, et donc du coup c'est devenu incontournable et c'est devenu l'outil le plus flexible. Et donc comme c'était mine de rien ma première bande dessinée, je voulais quand même être dans une zone de confort, être avec un outil que je maîtrise parfaitement pour pouvoir justement être le plus efficace possible, parce qu'on parle quand même de 200 pages, c'est tout de même assez copieux. Et voilà, je dis pas que j'aurais pas pu le faire entièrement en traditionnel, mais j'y serais sans doute encore aujourd'hui, ce qui serait peut-être pas très rentable. Et bon, voilà, ça serait un peu compliqué. Et j'admire beaucoup les auteurs qui continuent à s'attacher et à s'acharner toujours en traditionnel, parce que c'est très courageux, je trouve. Voilà.
Je trouve que on interviewe beaucoup, il y a beaucoup de mix en fait qui est fait maintenant. C'est oui. Du storyboard, on scanne, on fait les couleurs en image.
Oui. Il faut
le meilleur des deux mondes, quoi.
Exactement. Et on a des outils incroyables à notre disposition. De toute façon, ce qui compte, c'est le résultat final. Moi, je dis toujours, qu'est-ce qui sera imprimé et qu'est-ce qui sera en librairie et quelle sera l'expérience de lecture qu'on va proposer. Donc, peu importe finalement le chemin pour y arriver. Ce qui est important aussi, c'est en tant que créateur de prendre du plaisir en le faisant aussi, hein, parce que si c'est juste une souffrance tout le long, ça vaut pas le coup. Donc, bien sûr que ça peut aussi présider au choix de technique, hein, parce qu'il y a des gens, par exemple, c'est un auteur adore faire de l'aquarelle, qu'il le maîtrise, il va se faire sa BD en aquarelle, tout simplement parce que il a envie de passer du temps là-dessus et de faire comme ça. Moi, en l'occurrence, j'aime bien aussi le format numérique. Ça me permet d'affiner certaines choses, d'explorer, de travailler ma ligne, peut-être plus en précision, d'aller vers des chemins que j'aurais peut-être pas pu explorer si c'était via les médiums traditionnels. Voilà.
Au niveau réception, c'était un livre qui était plutôt destiné aux fans de Star Wars ou aux gens qui connaissaient pas, un peu des deux. Ça a évolué.
On espérait que ce soit un livre grand public qui bénéficie évidemment de l'adhésion première des fans de Star Wars, mais on sentait que c'était une histoire assez universelle, une histoire humaine qui dépassait le cadre de Star Wars et qui peut captiver même une personne qui n'a pas vu les films. On a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas vu les films et qui ont pourtant beaucoup aimé le livre, parce que c'est ça, c'est le parcours de cet homme face à un défi insurmontable, et ça pourrait être un livre sur n'importe quel autre sujet, à vrai dire, et le message serait à peu près le même. Le Star Wars, c'est un petit plus, c'est un bonus, parce que on a tous un attachement, on a tous vu les films, quasiment tous vu les films, et donc là c'est un petit plus, mais on espérait que ce soit un livre grand public.
Oui, non, c'est exactement ce que je voulais juste préciser. C'est vrai que moi, en découvrant le scénario de Laurent, tout de suite, j'ai senti cette dimension. Je me suis dit, ça m'intéresse aussi. Alors, pas seulement en tant que fan moi-même, mais parce que je sentais que, je parle souvent de, c'est comme des matrioshkas ou un cercle concentrique. C'est-à-dire quand on a vraiment au cœur, forcément, les fans qui sont là, peut-être la cible la plus évidente. Puis après, on a tous les cinéphiles, tous les gens qui s'intéressent au processus créatif au sens large, et ensuite tous les gens qui peuvent être sensibles au parcours humain et aux leçons de persévérance qu'on explore dans le récit. Donc c'est vrai que tout ça, je me disais, si on arrive à chaque fois à casser les murs successifs, on arrivera à vraiment toucher un lectorat très large. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé.
Et en allant plus large encore, vous avez eu des retours de fans purs et durs, qui peuvent parfois être hyper critiques, ou même peut-être simplement de personnes un peu plus éloignées, quitte à avoir des retours de personnes qu'on peut retrouver dans l'album.
Déjà pour les fans, oui, on a eu des retours incroyables de la communauté des fans en France qui ont soutenu l'album dès le début et qui ont été vraiment adorables. En fait, ils ont senti qu'il y avait une démarche sincère ouais. Et qu'il y avait un réel amour pour cet univers. Donc ils ont accompagné le titre et contribué à son succès. Ensuite, effectivement, on a eu des retours de personnes qui ont, on peut dire, un rapport avec le film, vous le dire, Renaud ?
Un petit moustachu dont on parle pendant 200 pages. Non, mais c'est vrai que ça, c'était... Comment dire, c'était une part de rêve aussi qu'on envisage toujours dans un coin de sa tête sans vraiment savoir quelle forme ça va prendre, comment ça va se concrétiser. Et le bouquin est arrivé jusqu'à George Lucas sans que finalement on ait rien à voir avec ça, par lui-même, je dirais, via l'intermédiaire de l'artiste JR, qui est...
C'est encore mieux.
C'est encore mieux, exactement, parce que c'est vrai qu'on se posait la question de savoir quelle était la meilleure approche. On pensait plutôt attendre la version anglaise, voilà, une fois traduite, pour pouvoir lui envoyer. Et finalement, il a eu la version française entre les mains assez tôt, début 2024, c'est ça, grâce à JR qui lui a transmis. Ça nous a permis d'avoir déjà un premier retour positif de sa part, qui nous a fait forcément énormément plaisir. Voilà, il y a d'autres personnes impliquées, Joe Johnston notamment, qui nous a écrit depuis et qui a adoré le bouquin et qui est donc le directeur artistique sur la première trilogie, qui est devenu réalisateur aussi, qui a fait quelques très grands succès. Et moi qui personnellement un artiste que je respecte et que j'admire beaucoup. Donc c'est vrai que de recevoir un message de sa part en disant qu'il a adoré la bande dessinée et notamment les dessins, vous doutez que j'étais assez heureux de lire ça. Et peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que je pense que ce soit les fans ou d'ailleurs les gens qui ont pu être impliqués à l'époque, je crois que tout de même ils sentent que voilà, on a fait ça avec sincérité, avec beaucoup de cœur. Qu'on a essayé d'y mettre tout ce qu'on pouvait dedans, et j'imagine que ça doit transpirer des pages, et voilà, c'est super, c'est une très belle aventure.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour après? Alors j'ai cru comprendre que le livre allait avoir une autre vie en fait en version anglaise et peut-être d'autres traductions.
Oui, le livre a été adopté par des éditeurs étrangers très rapidement, avant même sa sortie en France. Il avait déjà été acheté par plusieurs éditeurs étrangers, et là on est à 17 versions étrangères du livre. Donc la sortie américaine, ça serait évidemment un moment important. Mais sinon, le futur du livre, c'est qu'il a été conçu comme une trilogie à la base. Donc à la fin du premier volume, il y a écrit à suivre, et là on est en plein travail sur donc le tome 2, qui va raconter la suite des aventures de George Lucas après la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque donc, et Indiana Jones. Et puis il y aura un tome 3 qui conclura cette trilogie qui couvre la partie marquante de la carrière de George Lucas dans les années 80.
Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans, vous allez retoucher les premiers albums?
Alors, si on me laissait faire, moi j'aurais déjà retouché celui-là une semaine après sa sortie. Donc c'est pour ça que j'étais ravi qu'ils soient imprimés, distribués comme ça. Maintenant, j'ai plus la possibilité de... Oh, des fois, ça m'arrive la nuit dans les FNAC de m'infiltrer pour pouvoir corriger. Non.
Mais... Cela dit, on peut quand même dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réédition, parce qu'on en est à la 6e réédition, et donc on fait des corrections quand même, parce qu'il y a toujours des coquilles qui peuvent se glisser, et donc ça donne l'occasion de faire des petites corrections, mais qui sont des corrections très modestes, qui ne changent rien au livre, mais ça va être...
Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est comme là, on a réalisé assez récemment la traduction anglaise, justement, qui sera donc celle qui sera distribuée aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Les éditeurs américains ont décelé des petites choses que personne n'avait vues, ouais. Des petites coquilles et tout ça, et ce qui est quand même drôle parce que le bouquin a déjà été pas mal scruté, notamment par pas mal d'éditeurs étrangers. Et donc on a pu corriger ça, et il y a des petits détails en plus aussi qui ont été rajoutés. Alors s'il y a vraiment des gros fans, ils pourront s'amuser à comparer et tout ça, mais c'est amusant. Mais voilà, je me fais violence pour pas retoucher les planches, et c'est bien parce que j'ai déjà beaucoup de boulot sur le tome 2, donc je peux pas en fait. J'ai pas le temps de faire ça.
Parfait. Que dire de plus, si on vous laissait libre choix d'adapter soit de faire un autre documentaire comme ça, ou d'adapter une œuvre culte, il y a quelque chose qui vous ferait plaisir comme ça?
Il y en a beaucoup, hein, des œuvres cultes, hein, on a l'embarras du choix, donc. C'est une question intéressante, et pour ma part, je n'ai pas une réponse définitive, mais j'y réfléchis parce que c'est passionnant.
Je crois qu'on m'avait déjà posé cette question. Il est possible que j'avais cité Isaac Asimov. Je sais parce que quand j'étais étudiant, je m'étais mis dans la tête de créer des designs pour une potentielle adaptation de Fondation. Avant, donc bien bien avant qu'il y ait une série sur Apple TV qui soit faite. Je crois que c'est Apple TV, il me semble, ouais. Bref, mais c'est vrai que c'est dur à Asimov parce que c'est très cérébral, et c'est beaucoup de dialogue, et c'est pas forcément un récit qui se prête toujours à l'adaptation visuelle, mais c'est aussi un beau challenge. Puis bon, le problème c'est que voilà, j'adore George Orwell aussi, mais alors là du coup il y a eu tellement d'adaptations qui ont été faites récemment, donc limite je dirais pas 1984, mais à la rigueur La Ferme des Animaux, c'est je trouve quelque chose de vraiment intéressant, ça pourrait être ça, éventuellement. Mais Asimov est passionnant aussi parce que justement, c'est extrêmement intelligent comme type de récit. Et voilà. Mais j'ai d'autres projets perso dont je vais pas parler aussi, qui j'espère seront intéressants pour le public. On verra.
C'est tout le bien qu'on souhaite à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Radio G. www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour dans la case de Seb. Une interview super intéressante de Renaud Roche et Laurent Hopman, réalisée à Cultissime. Un grand merci aux éditions Deman et aux organisateurs de Cultissime d'avoir permis cette rencontre. C'était au sujet de La Guerre des Lucas, un album qui, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est vraiment très très bien. Toi, tu ne l'as pas lu, Fabien ?
Non, je n'ai pas eu l'occasion. Je l'ai juste parcouru un peu l'année dernière.
L'année dernière,
quand tu l'avais amené pour en parler, j'avais trouvé ça assez intéressant.
On va pas refaire la critique globale, mais un album qui parle de Star Wars, qui parle de George Lucas et qui parle aussi de cinéma et de la façon dont le cinéma, ça se crée. Et c'est un excellent album. Mais ça, tout le monde a été dithyrambique dessus, donc voilà, j'aurais été un petit peu bête de dire du mal de cet album parce que j'ai pas trouvé grand chose à dire de mal dessus, donc je dis pas de mal.
C'est mieux.
C'est quand même vachement mieux. Mon cher Fabien, est-ce que tu avais une BD dont tu voulais parler aujourd'hui même?
Oui, j'ai un manga, étonnamment.
Et ben, attention, générique. Kaizoku-Oni. Kore wa nare.
Nani. お前はもう死んでいる。
Eh ben c'est à toi. Hein.
Eh ben j'y vais,
je te lance.
J'ai cru que t'allais dire quelque chose, c'est pour ça.
Non, j'adore ce générique en fait. Voilà.
Alors du coup aujourd'hui, je vais vous reparler d'un auteur dont j'ai déjà parlé, un auteur que j'aime beaucoup.
T'as tes petites marottes hein, quand même.
Ouais, j'en ai certains. C'est vrai que quand il y a des nouvelles petites choses de certains auteurs qui sortent, j'ai tendance à aller dessus. Donc je vais vous reparler de Keigo Shinzo, avec cette fois La Planète Verte, qui est un titre qui est sorti en 2024, là il n'y a pas longtemps. On a deux tomes en France, mais c'est une ancienne œuvre en fait, qui est sortie en 2013 au Japon, qui n'était pas arrivée jusqu'à chez nous en fait. Et je pense que du coup, les Arts Noirs sortent beaucoup de choses de cet auteur-là, et vu qu'il y avait ça qui n'était pas encore sorti, ils se sont dit, avec en plus les derniers titres qui marchent de plus en plus pour cet auteur, que c'était l'occasion d'aller dessus. Donc là, on va être sur un univers un petit peu différent, parce que ça va être un peu de la SF. On va être sur une SF tranche de vie, avec un petit peu de romance.
Ah, tu m'as fait peur, parce que j'ai cru que tu étais vraiment parti complètement loin de ce qu'on avait l'habitude.
Non, non, du tout. Là, on reste quand même sur de la tranche de vie avec Keigo Shinzo, mais dans un décor un peu différent de ce dont on peut avoir l'habitude avec lui. Alors, le pitch, il est assez simple, en fait. C'est l'histoire d'un employé à temps partiel d'une société de transport spatial, Takaichi, qui atterrit en catastrophe sur une planète habitée par des êtres ressemblant à des grenouilles.
Ok.
Donc voilà, en fait, il va se retrouver là, coincé sur la planète avec son collègue, parce que leur vaisseau est pas réparable. Et du coup, on va suivre Takaichi, qui va découvrir cette planète et qui va essayer de se familiariser un petit peu avec ce nouvel environnement. Et ces créatures au physique de grenouilles, mais capables quand même de communiquer avec lui. Donc c'est-à-dire qu'ils se comprennent, ils arrivent à parler sa langue.
Ah oui, donc, d'accord.
Et ils ont vraiment un mode de vie comme nous. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils vivent, ils ont des maisons à eux. Voilà.
Passement, hein, je suis curieux.
Ouais. Attends, alors ça, c'est le tome 2. En plus, on en voit dessus.
Ah, oh, terrible!
Et du coup, ça a un côté assez what the fuck, malgré tout, qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude avec lui. Et c'est très fun. On va vraiment, on va le découvrir dans ce monde-là. Lui, il aimerait rentrer chez lui quand même, malgré tout, parce que, il a un petit peu, la terre lui manque. Et on va suivre son aventure, la découverte de ces hommes grenouilles, et un peu plus que ça, parce qu'on va se rendre compte quand même que cette planète regorge d'autres choses. Il va y avoir un petit peu de romance qui va se mêler un petit peu à tout ça, et du coup, plutôt très très chouette. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que avec Keigo Shinzo, on est rarement déçu déjà. On reconnaît sa patte tout de suite, c'est-à-dire que graphiquement, il suffit d'ouvrir une de ses œuvres pour découvrir que c'est lui. On sent que c'est une ça date un petit peu, c'est-à-dire que c'est 2013, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le meilleur dessin qu'il ait fait. Si on compare avec du Hirai Yasumi, qui est son œuvre actuelle, qui là vraiment au niveau graphique est vraiment un peu au-dessus quand même. Ça se lit bien, ça fait le boulot. Par contre, bah voilà, la narration est toujours aussi bonne. Il a toujours cette capacité à décrire les relations entre les personnages, à avoir envie, même la petite grenouille d'à côté, de savoir, bah, d'en savoir plus sur elle. Donc c'est très cool, ces petits instants de vie avec aussi bien la complexité des naufragés, qui est assez difficile, c'est-à-dire qu'il se laisse un peu aller par moments, il est un peu à la déprime. Il va même être méchant avec les grenouilles qui sont pourtant hyper gentilles. Elles l'accueillent, mais c'est... il mange à l'œil, c'est vraiment le roi, il picole beaucoup. Okay. Ils aiment bien faire la fête et tout ça, donc c'est très joyeux. Mais on va découvrir au fur et à mesure un petit côté qui semble un peu plus sombre sur cette planète-là. J'en dis pas plus, on le croise un peu à la fin du tome 1. J'avais juste moi un petit bémol avec Planète Verte, c'est qu'à la fin du tome 1, il me manquait un petit quelque chose, je n'arrivais pas à savoir vers où il allait. Après, j'ai eu la chance d'avoir pris les deux tomes d'un coup. J'y étais pas allé dès la sortie du premier. J'avais pas commencé à lire, je voulais attendre un peu. Et en fait, avec le deuxième, je me suis dit, non, c'est bon. Je suis pas du tout déçu, ça part dans quelque chose qui est très agréable, un peu assez rythmé, et qui donne envie de voir plus loin et de découvrir un peu le côté un peu bizarre quand même sur certains aspects de cette planète.
Y a des animaux un peu bizarres. La couverture du tome 2 montre une espèce de chat chouette.
Oui. On est vraiment, c'est pareil, c'est une planète, il y a deux soleils.
Ok.
C'est de la SF. Alors, une fois qu'on est sur la planète, on pourrait croire que ça ne l'est pas plus que ça, à part quand même les grenouilles qui parlent et tout ça. Mais on est sur un petit récit SF avec ces transporteurs de l'espace, en fait, qui atterrissent sur une planète un peu inconnue, parce qu'ils ne la connaissaient pas eux-mêmes non plus.
T'es sur aucune carte.
Ça donne un peu cette impression. Ils savent pas trop où ils sont, en tout cas. Ils espèrent juste que leur entreprise Tournesol, parce que ça s'appelle Tournesol, qui va être très important, ce nom de Tournesol, par rapport à la planète, parce que ça a un sens là-bas.
Okay.
Et c'est ça qui va amener des choses par rapport à ce personnage, des quiproquos par rapport à ce personnage-là, qui a l'air beaucoup d'attentes sur la planète, en fait.
Ok.
Donc, c'est plutôt marrant le fait que ce soit un Tournesol qui fasse ça, parce qu'il a l'habit avec le Tournesol, juste la veste en fait de l'entreprise sur lui. Et ils vont l'appeler Tournesol pendant un moment. Pas les grenouilles, mais d'autres qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. Donc, une petite lecture en plus qui va être en 4 tomes. Donc, c'est toujours pareil avec lui. On se lance jamais dans des séries fleuves où on se dit, si jamais j'aime pas, je suis parti pour 30 tomes, ça va être relou, quoi.
Ouais, donc, là au moins, t'es.
Ouais, non, ça vaut vraiment le coup d'être lu. En plus, c'est vrai que c'est un côté assez fun, hein, un petit côté what the fuck avec ces grenouilles-là qui est plutôt marrant. Et elles sont souvent des petites bêtises qui amènent un petit côté humoristique aussi à l'œuvre. Donc voilà, moi je recommande bien. Pour les habitués de Kaigo Shinzo, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Et pour les autres, ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir aussi.
J'avoue qu'en le regardant, effectivement, on se retrouve avec un graphisme qui fait un peu old school.
Ouais.
Mais... qui est très immersif. Tu parlais du côté tranche de vie. En le parcourant, on a vraiment l'impression d'arriver chez des gens et qui sont là. Et nous, on est simples spectateurs. Alors, je ne sais pas si ça spoil, mais dans le tome 2, tu as un passage où ils sont en train de jouer à la toupie.
Voilà, oui, exactement. Comme ça, et... Parce qu'il fait découvrir des choses de sa planète Terre à lui qu'ils n'ont pas dans la leur. Parce que vu que c'est des transporteurs, ils avaient plein de paquets aussi. Donc forcément, ils retrouvent des choses dans la navette qui sont ouvertes et tout ça. Et donc là, il fait découvrir ces toupies... aux grenouilles.
Ah, c'est terrible.
En effet, c'est un gros point fort de Kaigo Shinzo, c'est d'être immersif en fait dans la tranche de vie et de pas s'ennuyer surtout dans la tranche de vie.
Et ben voilà.
Et ben ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est La Planète Verte, c'est chez le Lézard Noir, comme tous les titres de Kaigo Shinzo.
Parfait. on restera au Japon juste après avec des trucs un peu différents les uns des autres. Et juste avant, on va se refaire une petite pause musicale avec pas du tout du Japon, puisqu'on va écouter All Five avec Perfectly Broken. I'm
everything I say. Well, maybe I'm not okay, but I don't need you to save me, save me, save me.
www.radio-g.fr.
Allez, vous êtes de retour dans le 101.5 de Radio G. C'est toujours ce beau micro. On va parler encore du Japon, mais pas forcément que de manga. Mais du coup, je ne sais pas par lequel j'ai envie de commencer. C'est assez paradoxal. Allez, on va partir sur du what the fuck, parce que c'est vraiment un truc qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous ai pas dit, il y a ma fille qui est là, si elle veut prendre le micro pour parler. Non, elle veut pas. Elle fait des mouvements de tête, mais elle ne parle pas. On va parler de Reborn as a Vending Machine, qui se dit en japonais Jido Onbaki ni Uruma Kawata Ore wa Meikyu. Oui, Wosamyo, il restait un petit bout derrière.
Rien qu'avec le titre, on peut déjà, tout le monde sait déjà que c'est un isekai.
Complètement. Mais c'est peut-être l'isekai le plus barré que j'ai vu. Et j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps où le mec recensait des isekai complètement what the fuck. Celui-ci est particulièrement barré. Alors, petit rappel pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec les genres, en fait, de manga. Un isekai, c'est un manga où quelqu'un est mort dans notre monde, souvent écrasé par un camion.
Oui, ça reste le poncif. Souvent c'est ça, mais en tout cas, ouais, il meurt et il réapparaît dans un autre monde.
Souvent comme un héros avec des super pouvoirs invulnérables qui lui permettent de s'affranchir de sa condition d'origine. Là, on est sur un petit twist, en fait, un peu particulier, puisqu'on suit d'abord, dans notre monde, un type qui est fan de machines, de distributeurs automatiques. Le Japon étant peuplé de distributeurs automatiques en tout genre, puisqu'on peut acheter du caviar, des bijoux, des bouquets de fleurs, des gâteaux, des insectes séchés, on peut acheter des milliers de trucs de l'or, comme dit ma fille, mais qui ne veut pas parler le micro, donc elle se tait. les distributeurs automatiques, en France, on a des distributeurs de boissons, éventuellement de sandwichs ou de sucreries, mais pas plus que ça. Alors qu'au Japon, c'est vraiment...
C'est ultra répandu, beaucoup. Ouais.
Et on suit donc ce héros qui est fan de distributeurs automatiques. Et un jour, un distributeur automatique se prend un camion et menace de tomber. Et pour éviter que le distributeur automatique ne s'abîme, le gars se jette en dessous et meurt écrasé par un distributeur automatique. Déjà, voilà, quoi. Et il se réincarne en distributeur automatique. C'est-à-dire qu'il est dans un monde d'heroic fantasy sous la forme d'un distributeur automatique. Il est au bord d'un cours d'eau et il se passe rien. Pas tout à fait rien, puisqu'à un moment, une espèce de créature qui arrive et il peut pas interagir avec, parce qu'il se rend compte que il peut pas parler. Il est un distributeur automatique. Un distributeur automatique, ça ne parle pas. Jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille qu'il va protéger d'une attaque de créature, qu'il va rassasier parce qu'elle a un peu de monnaie et la monnaie est visiblement compatible avec son distributeur. Et cette jeune fille, qui est quand même pas mal costaud, va trimballer le distributeur automatique jusqu'à son village. Et elle va se rendre compte que tout ce que ce distributeur peut proposer, c'est des choses qui peuvent être bénéfiques pour le village. C'est de la nourriture pour les mecs qui montent la garde. C'est de la soupe pour réchauffer les gens qui ont froid. Et le distributeur, de son côté, il a trouvé un moyen de communiquer. En utilisant les phrases préenregistrées qu'il peut avoir, il fait comprendre des oui, des non, d'autres petites informations. Et il a à son service une interface qui lui permet de modifier les choses qu'il peut mettre à disposition des gens en échange de points. Donc il a un pôle de points au départ, et en fait, à chaque fois que les gens lui achètent des trucs, il gagne des points. Donc il va changer l'assortiment de bouffe qu'il peut proposer en fonction des zones où il est. Jusqu'à ce que cette jeune fille décide de l'emmener sur un site de combat, puisque effectivement il y a des choses sur place. Alors, j'ai adoré ce truc, parce que c'est complètement barré, parce qu'effectivement je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un distributeur automatique, quoi, enfin...
Clairement, je pense que là, le gars, il est allé loin, quand même. Pour ramener un distributeur automatique dans un monde d'Heroic Fantasy, où ils vont se taper des mobs et tout le long. Moi, j'avais entendu parler de ça, ça m'avait fait bien marrer au moment de la sortie, mais j'avais pas eu l'occasion de le voir. Mais oui, je pense que par curiosité, ça pourrait être marrant de tester quand même.
Ben, ça marche, en fait. Là où je trouve que d'autres mangas qui peuvent avoir un ressort pas tout à fait identique, mais des gens qui sont capables de cuisiner ou qui sont capables de faire venir des choses de notre monde à nous dans un monde d'Heroic Fantasy, c'est moins bien exploité que là, puisqu'il y a plein de petits ressorts scénaristiques où tu dis, ouais, bah là, ça va être chiqué, ça va être nul. Et non, ça marche en fait. On se prend d'affection pour un distributeur automatique, quand même. L'héroïne, elle nous épate parce qu'elle a une force surhumaine, finit par se faire construire un harnais pour trimballer le distributeur automatique sur son dos. Et ils font un duo, comme dans un buddy movie en fait, où il y a le très costaud et le plus intelligent. Ça marche trop bien. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Graphiquement, en plus, c'est plutôt cool. C'est pas la série de ouf avec des traits ultra chiadés, mais les personnages ont des belles caractérisations, il y a pas mal d'actions, on a un distributeur automatique qui a un design, qui a un caractère. Encore une fois, c'est bizarre à dire, mais on se prend d'affection pour ce distributeur automatique, quoi.
Non, mais c'est que l'auteur a réussi à aller au bout de ce qu'il voulait, donc c'est plutôt bon signe, du coup, pour la suite.
Je sais pas. Alors,
on sait pas en combien c'est prévu.
Pas suite, je ne sais pas. Sur Manga News, on nous annonce qu'il y a deux tomes en cours, en VO. En France, on a un premier tome. Je sais pas quand est-ce que va sortir le prochain. C'est disponible chez Vega Dupuis. J'ai pas précisé tout à l'heure. Et ça a été commencé en 2021. Donc, le rythme est pas très très soutenu. Après, s'il prend son temps pour faire une histoire, et que l'histoire c'est pas potache et que ça se tient.
Ah bah, vaut mieux qu'ils prennent plus leur temps et faire une belle histoire que d'aller trop vite sortir un tome tous les 6 mois et que ce soit nul.
C'est ça. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Allez-y, je crois qu'il y a une série animée qui est en cours dessus. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais au moins, voilà, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, si je peux le dire, ou sa petite pièce pour avoir son sachet de noix de cajou. Donc Reborn as a Vending Machine, c'est disponible aux éditions Vega Dupuis. C'est un dessin de Kuneida Agure et c'est un scénario de Hiru Kuma. Voilà. Japon, toujours, moins drôle, avec un album publié aux éditions Ankama avec Guns and Gremlins de Asteda Leblanc et Feilin. Quand je dis moins drôle, là on va aller en 1944, peu de temps après Pearl Harbor. En fait, les Japonais en fait se sont rendu compte que ils avaient une capacité un peu particulière, c'est de faire des attaques kamikazes. Donc ça, c'est la vraie histoire, c'est ce qui s'est passé de manière assez triste, et c'est ce qu'ils ont appelé l'opération Vent Divin. Vraiment toute fin de la guerre. Et en fait, là, les auteurs, ils ont voulu retravailler ça en utilisant le mythe du Gremlins. Alors, tout le monde connaît certainement le fabuleux film de Noël que je vous conseille de remettre à vos enfants si vous voulez les traumatiser là, maintenant, tout de suite. Mais le mythe du Gremlins, à l'origine, ce sont les pilotes, alors sauf erreur de ma part, les pilotes anglais d'aviation de la Seconde Guerre mondiale, qui lorsqu'ils avaient des dysfonctionnements moteurs ou mécaniques disaient qu'il y avait des petites bêtes en fait qui étaient en train de parasiter leurs avions, et ils avaient appelé ça des Gremlins. Et c'est de là que vient le film, et c'est de là que vient l'ouvrage, puisqu'on va suivre en fait une base militaire où un héros de la guerre va être obligé d'accompagner justement on va dire un haut dignitaire pour mettre en place l'opération Vent Divin, une opération qu'il désapprouve. Et pendant ce temps-là, en fait, sa fille va se rendre compte que il y a des œufs un peu bizarres qui ont été visiblement déterrés dans des rizières, qui vont être mis à l'arrière des avions, qui vont participer à cette opération. Les œufs en question étant bien entendu des œufs de créatures assoiffées de sang, les Kremlins. L'histoire, moi ce que je reprocherais à cet album, c'est qu'on on pourrait avoir plus de choses à raconter avec cette histoire, prendre plus de temps. Là, on est sur un album unique, mais ça marche très bien. Ça nous raconte de l'histoire avec une petite dose de fantastique. Ils se sont amusés. Alors l'ouvrage en lui-même, en plus, c'est vraiment cool parce qu'il y a un vernis sélectif qui reproduit une peau de Gremlins un peu partout, ce qui est cool. Et à l'intérieur, les pages de garde nous présentent d'abord des avions en version historique. Et à la toute fin, on a la version caviardée avec des dessins de Gremlins un petit peu partout, ce qui est vraiment, vraiment cool. Donc c'est un ouvrage qui est...
Non, mais il est beau l'ouvrage, vraiment.
Il est beau, il est cool à lire, mais moi j'en aurais aimé un petit peu plus. Je vais pas avoir le temps de détailler tout ça, mais les auteurs, en fait, quand ils ont eu cette idée de mettre Guns and Gremlins, il y a eu un film qui est sorti, un film américain où justement on suit un avion avec des Gremlins à l'intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils se sont dit mince, on fait quoi du coup? Donc ils ont réorienté un petit peu leur travail pour pouvoir ne pas faire concurrence ou ne pas être concurrencé, et ça donne un album qui marche très bien, qui devait sortir de mémoire pour le 25 octobre, puisque le 26 octobre c'était l'anniversaire justement de lancement de l'opération Vent Divin. Donc enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas, c'est un album qui est très beau, qui est très cool. On reste un peu sur notre fin, c'est mon seul regret, mais allez-y, édition Ankama Guns and Gremlins de Asteda Leblanc et Feilin, et c'est plutôt cool.
Ça a l'air assez violent quand même.
Ouais, c'est pas pour les enfants, il y a beaucoup de passages très violents. Ça parle de guerre, c'est pas les Gremlins de Joe Dante, non. C'est clair. Hop. That's all, folks. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. J'avais dit qu'on le ferait de manière plus régulière. La majorité des albums ont été fournis par les éditeurs, sauf ceux du Lézard Noir que tu as pris.
C'est
de...
ça. C'est
ta propre bibliothèque.
Ouais, dans Mangatech.
Et puis voilà, donc on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Rendez vite! Tu n'es pas fait de moi ici!
Justement! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! It was so bright, so bright, so bright that I forgot about the dark.
Radio G 101.5 FM.